VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. La compilation des résultats se poursuit ce mardi au Burundi. Sans grand suspense, au lendemain des résultats d'élections législatives et communales boycottées par l'opposition et décriées par la communauté internationale, mais qui devraient consacrer la victoire du parti du président Pierre Nkurunziza et de ses alliés. D'après l'AFP, le dépouillement, notamment à Bujumbura, s'est déroulé dans des conditions de cafouillage extrême, parfois à la belle étoile, sans observateur. L'ONU, les partenaires américains et européens du Burundi, l'Union européenne et les pays voisins avaient tous estimé que le climat actuel au Burundi ne permettait pas des élections crédibles après 2 mois de contestation émaillée de violences contre une candidature du président Nkurunziza à la présidentielle prévue le 15 juillet. Ces violences liées à la contestation ont fait au moins 70 morts depuis fin avril et poussé plus de 120 000 Burundais à fuir leur pays. En République démocratique du Congo, 55e anniversaire de l'indépendance aujourd'hui, dans son discours à la Nation hier, le président Joseph Kabila a expliqué pourquoi il avait initié des consultations en vue d'un dialogue avec l'opposition, notamment avant les prochaines élections. On écoute le chef de l'État congolais.
J'ai donc engagé la nation sur la voie de consultation et éventuellement du dialogue, afin qu'ensemble, majorité, opposition et société civile puissent convenir de voies et moyens permettant de surmonter les obstacles qui jonchent la marche vers la troisième série d'élections générales. Ces obstacles sont liés au calendrier électoral, au financement du processus électoral. À eux seuls, le besoin pour l'organisation réussie des élections s'élève à plus $1 milliard.
Le président de la RDC, Joseph Kabila, toujours en RDC, appelle des évêques de la Conférence épiscopale nationale en faveur du report des élections locales. L'Église catholique exhorte l'opposition à se joindre au dialogue national, mais uniquement pour parler du calendrier électoral aux assises politiques initiées par le président Kabila. Plus de détails avec l'abbé Léonard Santédi. Il est le porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il est au micro d'Eddy Isango.
Le report des élections, c'est justement pour empêcher les glissements, parce qu'on va s'attaquer directement aux élections provinciales, législatives et présidentielles qui sont prescrites avec un délai constitutionnel et pas les élections locales, municipales. Pas les urbaines. Donc, justement, parce que peut se dire, si on commence par cela, les moyens, le budget et le temps. Tandis que le dialogue, c'est pour justement avoir un calendrier consensuel. Le calendrier qui est là actuellement ne remporte pas les consensus de tout le monde.
Donc, vous lancez cette invitation à l'opposition qui n'accepte pas de venir au dialogue, accusant le gouvernement de vouloir l'utiliser comme un stratagème pour prolonger, c'est le terme qu'ils utilisent pour les glissements, pour prolonger les processus électoraux.
Si ce dialogue est vu pour les glissements, pour prolonger, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons dit qu'il ne faut pas le dialogue pour le dialogue. Les évêques, on peut promouvoir ce dialogue en définissant bien les objectifs. Nous, et pour les pères évêques, c'est arriver à un consensus, à un calendrier consensuel et aussi examiner ce calendrier, mais aussi tout ce qui concerne le financement de ces élections. Voilà ce qu'ils disent. Donc, on est d'accord avec l'opposition qu'il ne faut pas de glissement, mais alors, pour cela, il faut dialoguer.
L'abbé Léonard Santédi, le porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Réapparition de l'Ebola au Libéria, un nouveau cas de la maladie. Un jeune homme est décédé le 24 juin. Il a été signalé dans le comté de Marghibi, loin des frontières de la Guinée et de la Sierra Leone. Les deux autres pays affectés par le virus, des recherches sont en cours pour déterminer où le défunt a pu être contaminé. L'éradication de la maladie au Libéria avait été officiellement proclamée il y a près de 2 mois, le 9 mai dernier.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La guerre contre Boko Haram, des dizaines de membres présumés du groupe islamiste nigérien arrêtés ces jours-ci au Tchad dans le cadre de l'enquête sur le double attentat sanglant à N'Djamena à la mi-juin. Le FBI et la police fédérale américaine a apporté sa contribution à ce coup de filet. Le point avec le ministre tchadien de la justice, Mahamat Issat Alikimi. Il est au micro de Jacques Aristide.
Nous avons aujourd'hui presque 70 personnes qui sont suspectées impliqués dans les attentats du 15 juin dernier.
Nous apprenons que des enquêteurs américains, FBI notamment, sont arrivés dans la capitale. Pouvez-vous nous en parler ?
Absolument. Ils sont arrivés juste après le 15 juin. Ils nous ont appuyés sur l'identification d'explosifs et le gilet. Tout ce qu'ils nous ont dit s'est avéré aujourd'hui vrai. Et donc, ils ont travaillé sur la nature d'explosifs, les modes opératoires. Et donc, le double attentat, c'est le même engin explosif. Et le mode opératoire, c'est des explosifs qui sont artisanaux. Et même les gilets, nous ont parlé des gilets noirs et aujourd'hui, effectivement, on avait découvert que des gilets noirs. C'est le même cellule. C'est une aide américaine qui nous a aidés dans notre enquête.
Le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Issa Alikimi, a noté que les experts du FBI ont maintenant quitté le Tchad. Au Burkina Faso, coup de feu hier soir dans le camp de la garde présidentielle à Ouagadougou, installation militaire proche de la présidence de la République, d'où des interrogations et même des inquiétudes dans la population. Les explications de notre correspondant dans la capitale burkinabé, Zoumana Ouanogo.
Ce lundi soir, il y a eu des tirs du côté du palais présidentiel, précisément au niveau du camp de la garde présidentielle. Ça n'a pas trop duré. L'incident peut s'expliquer par le fait que la gendarmerie nationale a entendu le chef de corps du régiment de sécurité présidentielle, le colonel Céleste Koulibaly, et deux de ses éléments concernant l'atterrissage de l'avion du premier ministre qui revenait d'une tournée en Turquie. L'avion devrait descendre normalement à l'aéroport de Ouaga, mais il a été dévié à l'aéroport de la base aérienne. C'est concernant cette déviation-là que la gendarmerie a voulu comprendre. La tension est d'autant plus grave que le président du Faso, ce mardi-là, devrait rencontrer l'organisation de la société civile. À la dernière minute, on a appris que cette rencontre entre le président et le GSC
au Mali, la vie normale continue dans les administrations et dans les tribunaux malgré les violences liées à l'ex-rébellion. À preuve, la fin des travaux de la première session de la cour d'assises de Bamako cette semaine. Le bilan de la session avec notre correspondant de la capitale malienne, Kassim Traoré.
Pendant cette session, sur les 150 dossiers, 7 ont été renvoyés, 147 jugés, soit un taux de 93%. Il y a eu 21 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, 15 assortis de sursis, 33 à la réclusion à temps, 15 à perpétuité, 11 peines de mort prononcées, dont 8 par contumace. Daniel Tessogué, procureur général près la cour d'appel de Bamako.
Il faut que les Maliens comprennent que si on veut que le Mali ait rang parmi les nations qui portent l'étiquette d'état de droit, il faut que la justice retrouve réellement son rang de troisième pouvoir, au sens propre du terme. C'est pourquoi j'ai dit assez des engueulades des parvenus. Tous ceux qui pensent qu'il faut se suivre sur la justice pour faire carrière. Assez.
Cette session qui a duré un mois a permis 23 acquittements, 4 cas où l'action publique a été déclarée éteinte et 48 condamnations par contumace. Maître Alou Diara, représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali.
À aucun moment, les audiences n'ont été suspendues parce qu'il y a assises. Cette nouvelle phase de notre justice mérite d'être saluée et encouragée. Être juge dans nos pays est difficile, surtout au Mali. Parce qu'au Mali, aujourd'hui, les juges, c'est le cousin. Les juges, c'est la cousine. Les juges, c'est le camarade de grève. C'est facile d'accuser le juge, mais celui qui n'a pas péché soit le premier à jeter la pierre.
Après cette première session de l'année, le procureur général près la cour d'appel de Bamako a fait deux propositions majeures. Daniel Tessogué.
Première proposition que je veux faire, c'est l'exclusion totale du ministre de la Justice et de l'architecture de la chaîne pénale. Pour être conforme aux normes internationales qui sont relatives à l'indépendance de la justice, l'une des formules pourrait être l'article 30 du Code de procédure pénale de France qui dit ceci. Le ministre de la Justice conduit la politique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de l'application sur l'ensemble du territoire. Le second changement, c'est la nécessité d'encadrer strictement les constitutions du parti civil. Libre alors aux décideurs d'en tenir compte ou de ne pas tenir compte de ces propositions de réforme, mais qu'ils comprennent que de leur inertie à répondre aux besoins urgents et présents de la justice, de cette décrépitude de la justice par voie de conséquences et de l'État, ils répondront devant l'histoire.
Arrêtez.
Kassim Traoré, le correspondant de La Voix de l'Amérique à Bamako. Merci, Kassim. Crise de la dette grecque. Athènes confirme qu'il ne remboursera pas le Fonds monétaire international comme il devait le faire ce mardi. Le bras de fer entre la Grèce et ses créanciers est en suspens en attendant le résultat du référendum sur le paiement de la dette prévu dimanche dans le pays. Selon l'agence Reuters, la rupture des négociations sur la dette et la décision d'Athènes d'imposer un contrôle des capitaux aux banques rendait inévitable le refus du gouvernement de payer les traites dues ce mardi. Merci.
Soyez au cœur. Afrique.